avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Olivier Drapé, bonjour et bonne année.
Oui, bonjour, bonne année à tous les auditeurs de Radio La Pourrie.
Pour votre première chronique de l'année, vous avez choisi de revenir sur la colère des agriculteurs.
Absolument, c'est un sujet d'actualité important parmi beaucoup d'autres, évidemment. Mais je pense que dans les jours qui viennent, on va beaucoup parler de cet enjeu de l'agriculture. Comme vous le savez peut-être, Mgr Hayet a publié récemment, le 15 décembre 2025, un communiqué de soutien aux agriculteurs qui s'intitule précisément « La colère des agriculteurs ». Le sujet principal de cette colère, à ce moment-là en tout cas, était surtout la stratégie adoptée par le gouvernement français d'abattage systématique des troupeaux de bovins dès le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse. Mais cette politique plonge un grand nombre d'agriculteurs ou d'éleveurs dans un profond désarroi qu'on ne peut que comprendre. Parce que c'est une politique de dépeuplement total des bovins, des foyers infectés, conformément d'ailleurs aux contraintes, aux obligations, aux réglementations européennes. Les conséquences sont d'autant plus dramatiques, on ne le mesure pas toujours, que, et je cite Natacha Polony qui expose très bien ce problème, que c'est un point, dit-elle d'ailleurs, qui n'apparaît jamais dans les reportages consacrés au sujet, la France connaît une pénurie de jeunes animaux parce que la production baisse drastiquement. Et elle poursuit, conséquence, l'éleveur qui voit abattre son troupeau ne pourra pas le reconstituer. Le risque est immense qu'en dépit d'ailleurs des indemnisations prévues, ils mettent tout simplement la clé sous la porte. Donc c'est effectivement, comme le dit Mgr Hayet par exemple dans son communiqué du 15 décembre, c'est un problème d'autant plus tragique que l'abattage de tout un troupeau réduit, pour ainsi dire, à néant le travail de toute une vie. D'autre part, le consensus scientifique dont on parle souvent à propos de la nécessité de cette politique d'abattage systématique me paraît discutable, comme c'est souvent le cas quand on essaie de s'appuyer sur un prétendu consensus scientifique. D'abord, il y a l'expérience de certains pays étrangers, la Suisse, ou même de territoires ou départements d'outre-mer, je pense à la Réunion, en citant d'ailleurs Véronique Le Floch, qui est une ancienne présidente de la coordination rurale et qui a été interrogée par Le Figaro et qui rappelle « Quand la dermatose a touché la Réunion en 1992, on n'abattait pas les vaches saines et il n'y a eu que 22 vaches mortes. » Très intéressant aussi la prise de position de certains vétérinaires, comme par exemple Éric Ancelet. Éric Ancelet s'exprimait le 31 décembre en disant « La dermatose nodulaire contagieuse, qui n'est pas transmissible à l'être humain, faut le rappeler, est une maladie virale bénigne qui guérit généralement spontanément ou qui se soigne très facilement, sans séquelles et avec une immunité à vie. » Puisqu'on a parfois tendance à oublier, en dramatisant cet épisode de contagion. D'autre part, en ce qui concerne les solutions alternatives à l'abattage total, eh bien, un certain nombre d'experts, de scientifiques finalement, se sont également exprimés dans un sens opposé, ou en tout cas différent de la politique qui est menée. Je pense à Jean-Marc Sabatier, qui est docteur en microbiologie, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui considère que la vaccination préventive, évidemment, mais massive, l'abattage sélectif des animaux effectivement atteints et la mise en quarantaine du troupeau suffisent très vraisemblablement à éradiquer donc cet épisode de dermatose nodulaire contagieuse. Quant aux éleveurs concernés, ils s'interrogent, ou certains d'entre eux s'interrogent, sur les véritables motivations, aussi bien des autorités bruxelloises, européennes, que des pouvoirs publics en France. Certains d'entre eux se demandent si la DNC, comme on dit, n'est pas qu'un prétexte, ou en tout cas une opportunité de réduire le cheptel bovin en France, conformément aux préconisations depuis des années de ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen, qui, sous couvert de protéger l'environnement et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, prévoit à l'échelle européenne une décroissance de l'agriculture et de l'élevage et prévoit par exemple une réduction de 20 à 30% du cheptel bovin pour un pays comme la France. En France, le rapport de la Cour des comptes du 3 mai 2023 recommandait précisément de réduire le nombre de bovins en France pour tenir nos engagements climatiques de réduction des émissions de méthane de la France. Ce qui, évidemment, donne un certain crédit à l'hypothèse selon laquelle on profite peut-être de cet épisode de contagion du cheptel de bovins en France pour accélérer dans cette direction. Il y a par ailleurs un second motif de colère des agriculteurs dont on va beaucoup parler, je pense, aussi dans les jours qui viennent. C'est le fameux Mercosur. Je rappelle que il s'agit d'un projet, pour le moment, d'un projet d'accord de libre-échange qui est négocié depuis à peu près 25 ans, ce qui montre à quel point le problème est complexe, ce qui a fait l'objet d'une signature, déjà d'une première signature, d'un premier accord, il y a maintenant quelques années. Enfin, c'était le 6 décembre 2024, il y a donc qu'un an simplement. Une signature à Montevideo par Ursula von der Leyen. Depuis, cet accord initial a été scindé en deux, de telle sorte que le volet commercial, qui est de loin le plus important de cet accord, ne relève que de la compétence de l'Union européenne. Ça signifie que cet accord devra être ratifié non pas par les parlements des 27 États membres, dont le Parlement français, mais uniquement par le Parlement européen, ce qui change évidemment radicalement la donne. Alors les 27 États membres, jeudi 8 janvier, doivent se prononcer sur cet accord et il semble bien qu'aucune minorité de blocage ne semble plus pouvoir s'y opposer depuis que l'Italie, pays dont les intérêts sont très différents de pays comme la Hongrie, la Pologne ou la France, a fait comprendre que elle ne s'y opposerait pas. Car pour convaincre ou pour rassurer les États membres, la Commission européenne, en effet, vient d'annoncer, mardi 6 janvier, qu'elle était disposée à débloquer, dit-elle, 45 milliards d'euros pour la PAC afin de soutenir les agriculteurs ou les éleveurs lésés par cet accord. La Commission européenne prévoit donc de signer, ce sera probablement le cas, définitivement l'accord avec les pays du Mercosur, que sont le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, le 12 janvier au Paraguay. Je rappelle tout de même que le 27 novembre 2025, l'Assemblée nationale a approuvé une résolution invitant, je cite, le gouvernement à s'opposer à l'adoption de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Résolution dont le gouvernement ne semble d'ailleurs tenir aucun compte et à ce propos, entre parenthèses, je souligne ce qui me paraît être une certaine duplicité de la part d'Emmanuel Macron qui, lorsqu'il rencontre le président Lula au Brésil le 6 novembre dernier, se déclare favorable globalement à l'adoption de cet accord, alors que lorsqu'il rencontre une délégation d'éleveurs à Paris quelques jours plus tard, il se dit opposé à l'adoption de cet accord dans les conditions actuelles, dit-il. Le problème provient plus particulièrement, me semble-t-il, de l'Union européenne et d'un certain dogmatisme concernant la mondialisation et les accords de libre-échange. En fait, l'Union européenne semble prête, pour des raisons commerciales, industrielles, à sacrifier l'agriculture européenne dans le cadre de traités de libre-échange. Le journaliste d'investigation Serge Faubert sur France Info le 19 décembre dernier résumait finalement d'une phrase la situation de manière, me semble-t-il, tout à fait juste. on va sacrifier l'essentiel de notre agriculture pour sauver les bagnoles allemandes. C'est ça la réalité, disait-il. Ce projet, en tout cas cet accord de libre-échange, Mercosur, en tout cas pose de très sérieux problèmes, comme la plupart d'ailleurs, des dizaines de traités ou d'accords de libre-échange qui ont été négociés et ratifiés au niveau de l'Union européenne depuis quelques décennies, en faveur du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des pays du Mercosur très prochainement, peut-être un jour ou l'autre de l'Inde également. Ce sont des accords, en fait, de libre-échange déséquilibrés. Il n'est pas très compliqué de comprendre pourquoi. C'est qu'en effet, on organise l'ouverture des frontières à des productions étrangères vis-à-vis desquelles il est impossible que nos agriculteurs soient compétitifs. Pour simplement expliquer ce qu'il en est, rappelons que le montant du SMIC au Brésil est de 230 euros, il est de 1450 euros en France. Nos agriculteurs ne pourront pas être compétitifs. Par ailleurs, l'Union européenne impose à nos agriculteurs et nos éleveurs un très grand nombre de normes environnementales et sanitaires dont les pays d'Amérique latine du Mercosur seront dispensés, ce qui change radicalement la donne, bien entendu. Il s'agit donc véritablement d'un problème pour nous de survie de l'agriculture française et de souveraineté alimentaire. Il faut rappeler tout de même que le nombre d'agriculteurs, en tout cas le nombre d'exploitations agricoles en France est 10 fois moins important aujourd'hui qu'il ne l'était en 1960. Et pour la première fois d'ailleurs en 2025, la balance commerciale agricole de la France est déficitaire, ce qui signifie que la France, qui était un pays de tradition agricole bien entendu, importe désormais plus de produits agricoles qu'elle n'en exporte. Alors on parle en permanence de souveraineté alimentaire, mais on la sacrifie effectivement allègrement avec ce genre d'accord de libre-échange. Et puis il y a un autre problème majeur, qui est un problème de santé des consommateurs, un problème sanitaire. La santé est également sacrifiée. Pourquoi ? Parce qu'on s'apprête à importer de la viande cancérigène aux hormones. D'ailleurs, l'Union européenne a récemment découvert que du bœuf brésilien importé contenait une substance qu'on appelle l'ostradiol, qui est une hormone cancérigène interdite sur le territoire de l'Union européenne. Sans parler, par exemple, du soja brésilien génétiquement modifié, qui est produit avec des pesticides 30 fois supérieurs aux normes européennes. Alors on nous parle bien entendu de clause de sauvegarde. Tous les experts le savent et le disent et l'écrivent. Ce genre de clause, forcément temporaire, est inapplicable. Pourquoi ? Parce que les contrôles sont presque impossibles ou sont dérisoires au regard des importations massives de viande et de produits agricoles qui sont prévus dans le cadre de ces traités. Conclusion. La conclusion, je l'emprunte à un ancien ministre de l'Agriculture, François Guillaume, qui a aussi été un des patrons de la FNSEA il y a bien longtemps et qui écrit: la crise paysanne n'est pas conjoncturelle, elle est existentielle, elle touche à l'âme des gens de la terre qui conservent dans leur quotidien la mémoire et la gestuelle des générations disparues et plus encore ce fond religieux qui les invite à participer dans leur quotidien au renouvellement de la création.
Olivier Drapé, merci beaucoup.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.